VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Vague d'attaques djihadistes en cours en Afrique, au Burkina Faso, attaque armée ce vendredi contre l'ambassade de France et l'Institut français à Ouagadougou, la capitale. Information confirmée par un message posté sur la page Facebook de l'ambassade à 11h temps universel qui demande aux ressortissants français de rester confinés là où ils se trouvent. Selon des témoins, 5 hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. Des tirs intenses ont été signalés dans le secteur et un véhicule, celui des assaillants, était en feu sur la chaussée. Des unités de gendarmerie et de l'armée sont déployées sur place pour faire face aux agresseurs. D'autres témoignages font état d'une explosion près de l'état-major des armées burkinabé et de l'Institut français, à environ 1 kilomètre de cette première attaque, toujours dans le centre de la capitale burkinabé. Ouagadougou a fait l'objet ces dernières années de plusieurs incursions djihadistes visant des cibles fréquentées par les Occidentaux et les symboles de l'État burkinabé comme les gendarmeries et les écoles notamment sont régulièrement attaqués dans le nord du pays, frontalier des zones instables du Mali voisin. Au Nigeria, 4 travailleurs humanitaires nigérians tués et 2 portés disparus dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram dans la nuit de jeudi à vendredi dans la ville de Ran, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi une porte-parole de l'ONU. Parmi les victimes figurent notamment 2 employés de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, qui s'occupaient de la gestion d'un camp de déplacés, et un médecin travaillant comme consultant pour l'UNICEF. Aucun détail n'a été fourni dans l'immédiat sur la 4e personne tuée, mais les personnes enlevées et portées disparues sont toutes 2 des femmes. L'attaque a eu lieu à l'extérieur du camp de déplacés de Ran, près d'une base de l'armée nigériane qui était apparemment visée par des djihadistes. Au Kenya, 4 policiers et un réserviste kényan tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est du pays à la frontière avec la Somalie par des membres présumés du groupe djihadiste somalien Shebab affilié à Al-Qaïda. Selon Mohamed Saleh, le plus haut responsable sécuritaire dans cette région du Kenya, les assaillants ont attaqué pendant la nuit 2 camps de police adjacents à Lafey, une localité du comté de Mandera. Au Tchad, les syndicats tchadiens ont été reçus jeudi par le président Idriss Déby Itno, alors que le secteur public achève sa 5e semaine de grève. Le point avec Jacques Aristide.
D'après un membre de la Confédération libre des travailleurs tchadiens proche du pouvoir, le chef de l'État a demandé aux syndicats de renouer le dialogue pour mettre un terme à la grève qui paralyse les secteurs vitaux, à savoir l'éducation nationale et la santé. Le président a indiqué que les mesures d'austérité ont été prises en conformité avec les bailleurs de fonds. La plateforme syndicale qui regroupe la CLTT, la Confédération libre des travailleurs tchadiens, et 2 autres syndicats doivent se réunir ce vendredi pour discuter de la réponse à apporter. La CLTT a suggéré au président Déby que s'il voulait faire des économies, il faudrait que le gouvernement fasse un audit du nombre de fonctionnaires. Réclamé par les syndicats depuis plusieurs mois, cet audit doit mettre en lumière le nombre de fonctionnaires fantômes qui serait au nombre d'environ 92 000. D'abord mobilisé contre un projet de loi de réduction des salaires, finalement abandonné par le gouvernement, les mouvements sociaux ont repris quand les fonctionnaires se sont rendus compte de coupes effectives dans leur salaire à la fin de janvier.
Violence en RDC, une conférence des pays donateurs se tiendra le 13 avril à Genève en Suisse pour lever 1,5 milliard de dollars afin de faire face aux nombreuses crises humanitaires dans le pays. Les détails avec Anastasie Toudiech.
Pour Julien Ardeis, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC, l'objectif est de mobiliser plus d'attention, de financement, mais aussi de l'assistance technique pour la RD Congo pour 2018 et les années à venir, afin de faire face aux urgences et aux multiples crises qui touchent directement les populations. La somme que l'ONU espère lever en 2018 représente le double des fonds demandés en 2017. En janvier, l'ONU avait lancé un appel pour obtenir 1,68 milliard de dollars pour une aide humanitaire, estimant que la situation y a atteint un point de rupture. En décembre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, avait indiqué qu'au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère et pourraient mourir cette année s'ils ne sont pas assistés, rien que dans la région du Kasaï, théâtre d'affrontements qui ont fait des milliers de morts.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On reste en RDC, dans le nord-est du pays, résurgence des affrontements entre Emma et l'Hindou dans la province de l'Ituri. L'ONU se dit préoccupée, craignant des recrutements d'enfants pour servir comme soldats dans les milices ou esclaves sexuels. Eddie Sango a interviewé le porte-parole de l'UNICEF en RDC, Yves Villemot.
Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui sont déplacées suite au conflit interethnique, qui sont déplacées à l'intérieur même de la province de l'Ituri, et qu'il y a plus de 30 000 personnes qui ont fui la province de l'Ituri et qui, en tant que réfugiés, se sont installées dans le pays voisin qui est l'Ouganda. Parmi ces personnes qui ont fui la violence, il y a un nombre important d'enfants. Nous estimons qu'aujourd'hui, plus de 80 000 enfants sont en déplacement, ont quitté leur village d'origine, leur communauté d'origine, suite à la violence interethnique qui sévit dans leur communauté.
Cette région a connu une des plus graves crises dans les années 99 et 2000. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette résurgence de ces affrontements interethniques?
Je n'ai pas, en ce qui me concerne, une information et une compréhension très précise. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la tension interethnique n'a jamais véritablement disparu et que de temps en temps, il y a eu des affrontements entre les différentes ethnies et qu'apparemment, récemment, c'est une confrontation entre des jeunes des deux ethnies qui a dégénéré dans une explosion de violence que nous vivons aujourd'hui et dont nous vivons les conséquences, et tout particulièrement les enfants de l'Ituri vivent les conséquences.
C'est dans cette partie de la RDC où on a connu un grand recrutement d'enfants comme enfants soldats ou encore servant comme esclaves sexuels. Est-ce que la situation est revenue à ce point-là?
Je n'ai pas d'indication aujourd'hui me permettant de le dire. Par contre, nous estimons pour la province du Tanganyika à l'est du pays, le sud-est du pays, et la province du Sud-Kivu qui se trouve au nord de la province du Tanganyika, nous estimons qu'il y a sans doute 3000 enfants qui sont aujourd'hui utilisés dans le conflit et qui sont donc à catégorier comme des enfants soldats.
Qu'est-ce qui est fait pour essayer d'arrêter cette situation en Ituri?
Nous menons en tant qu'UNICEF des activités de sensibilisation auprès des groupes armés et auprès des milices pour les convaincre de ne pas utiliser des enfants. Nous menons également des activités de sensibilisation au sein des communautés pour les informer du risque de voir leurs enfants être enrôlés, être utilisés au niveau des groupes armés et des milices. Mais au-delà de cela, ce que nous faisons surtout, c'est de nous assurer que des enfants qui sont sortis des groupes armés, qui sont sortis des milices, soient pris en charge.
Yves Villemot, porte-parole de l'UNICEF en RDC. Tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan, le leader turc s'est fixé pour objectif hier à Dakar de doubler les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal. La veille à Nouakchott en Mauritanie, le président Erdogan avait annoncé une contribution turque de 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel qui combat les djihadistes dans cette région de l'Afrique. Le point avec Abdourahmane Dia.
D'après le président Macky Sall, son homologue turc avait promis il y a 2 ans de porter le niveau des échanges avec le Sénégal à près de 250 millions de dollars. C'est maintenant chose faite et une nouvelle barre a été fixée à près de 400 milliards. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a multiplié le nombre d'ambassades turques sur le continent et les dessertes de la compagnie Turkish Airlines. Il a visité la nouvelle cité de Jamnagyo, dont plusieurs entreprises turques ont participé à la construction. Mercredi soir à Nouakchott, Recep Tayyip Erdogan a signé plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, des hydrocarbures et des mines. Il a aussi annoncé une contribution de 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel. Monsieur Erdogan, qui s'est rendu en début de semaine en Algérie, doit achever sa tournée africaine aujourd'hui par une étape de quelques heures au Mali.
Et pour terminer, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rendra en Afrique la semaine prochaine pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump. Le chef de la diplomatie américaine ira à N'Djamena au Tchad, à Djibouti, à Addis Abeba en Éthiopie, à Nairobi au Kenya et à Abuja au Nigeria du 6 au 13 mars. C'est ce qu'a annoncé jeudi la porte-parole du département d'État américain Heather Nauert. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.